RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent Frédéric Bollet.
Bonjour à tous, il est 13h04, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour vous parler de sport mécanique sur RMC. Dans quelques minutes, nous donnerons la parole à deux pilotes moto dont l'un a remporté le week-end dernier une des plus grandes courses du monde. Je n'hésite pas à le dire, il s'agit de l'Enduropal du Touquet. Et c'est donc Milko Potisek qui s'est imposé face à 1000 autres motards, une victoire belle et même émouvante. Milko Potisek sera donc notre invité. Loris Bass sera également des nôtres pour évoquer son retour dans le championnat du monde Superbike qui redémarre dans 3 semaines. Mais on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énorme nouvelle qui est tombée cette semaine et qui concerne Fernando Alonso, qu'on va retrouver sur tous les fronts en 2018.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Le tour de chauffe donc pour commencer cette émission, et j'accueille Lucas Vinois pour notre premier titre aujourd'hui. Salut Lucas.
Salut LFB, salut à tous.
On va donc parler de Fernando Alonso, qui est donc encore une fois dans l'actualité. Un an après son fameux défi à Indianapolis, on s'en souvient tous, eh bien il a un autre défi cette année. Tu vas tout nous dire, Lucas. Je voudrais juste qu'on fasse un petit détour. Tu seras d'accord par le tennis, Albertville, car le premier tour de la Coupe Davis a commencé. France-Pays-Bas. C'est Eric Salieu qui est sur place. Mon cher Eric, j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance là autour de toi.
Absolument. Nous sommes à la halle olympique d'Albertville et c'est vrai qu'il y a 5000 personnes qui font beaucoup de bruit, qui vont essayer de pousser surtout Adrian Mannarino vers la qualification pour les quarts de finale, puisque vous savez que la situation est plutôt avantageuse pour l'équipe de France de Côte d'Ivoire puisqu'elle mène 2-1. Il manque donc un point aujourd'hui. Soit c'est Mannarino qui l'apporte, soit c'est Richard Gasquet dans un cinquième match toujours dangereux. Donc on va pousser derrière Adrian Mannarino qui, on le sait, fait sa première sélection, enfin sa deuxième, sa première, mais son deuxième match, puisqu'il a joué vendredi, perdu son match face à De Backer, mais surtout il avait été appelé en catastrophe après l'hécatombe de forfait au sein de l'équipe de France, puisque Lucas Pouille et Joe Ouvitsonga ont été déclarés inaptes à jouer.
Et donc Eric, là tu nous confirmes que le match est sur le point de commencer.
Absolument, c'est une très question bien. De seconde.
Bon, bah écoute, on te retrouvera dans l'émission tout à l'heure et on fera un point évidemment très régulier avec toi. Merci Eric. Allez, on revient sur notre thématique principale, évidemment, les sports mécaniques. Lucas, Fernando Alonso, donc, fait encore l'actualité. Une nouvelle est tombée en milieu de semaine, une nouvelle vraiment très importante pour notre discipline, évidemment. Donc, double programme à venir pour Fernando Alonso. Vas-y, je te laisse nous l'annoncer, on va la débriefer juste après.
Bah c'est très simple, c'est McLaren qui a dans un premier temps autorisé Fernando Alonso à faire un double programme, puisque l'employeur principal de Fernando Alonso c'est McLaren Renault. Maintenant on sait qu'on est passé chez Renault côté motoriste, et dans la foulée Toyota a annoncé ses trios de pilotes. Donc Fernando Alonso participera à la saison, l'entière saison de Formule 1, et participera aussi à 4 meetings de WC de championnat du monde dans endurance, donc en 2018, pour un total de 25 rendez-vous mécaniques pour le double champion du monde espagnol.
Donc voilà, la nouvelle, c'est que Fernando Alonso se lance dans un nouveau challenge. Un an après Indianapolis, c'est le championnat du monde d'endurance qui l'attend, et par conséquent les 24 heures du Mans. Donc il y a une sorte de nouvelle au pluriel en cascade, double programme, championnat du monde d'endurance et Le Mans. Donc on est sûr de voir Fernando Alonso au départ des 24 heures du Mans. Donc effectivement, ce championnat du monde d'endurance, qu'on appelle le WEC, effectivement, comprend plusieurs manches. Tu peux nous les décrire?
Alors oui, on aura 5 manches cette année du championnat du monde, avec dans un premier temps les 6 heures de Spa auxquelles Fernando Alonso participera. Ce sera sa première course avec Toyota. Ensuite, les 24 heures du Mans, les 6 heures de Silverstone, les 6 heures de Shanghai et le mont Fuji aussi. Mais Alonso n'y sera pas normalement, puisque ça fait doublon avec le Grand Prix des États-Unis. Oui. Et donc la F1 est prioritaire sur le championnat du monde d'endurance.
Alors tu sais que c'est une situation d'ailleurs incroyable, parce que c'est vrai qu'Alonso maintenant a finalement plusieurs employeurs qui sont tous des grands constructeurs industriels. McLaren, bon, c'est à un niveau plus sportif, mais quand même c'est aussi un constructeur. Renault, fatalement il est aussi un ambassadeur Renault, du fait que c'est bien le moteur qui équipera sa McLaren. Et puis il est aussi finalement salarié de Toyota. Et tu sais que ces 6 heures de Fuji sur le circuit du Mont Fuji, c'est une propriété Toyota. Donc Toyota se retrouve dans le cas de figure où ils engagent un pilote évidemment de renommée mondiale, mais la seule course qu'ils peuvent pas faire, c'est à la maison, à domicile, sur le circuit Toyota.
Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à l'origine, la course était prévue le 14 octobre. Le 14 octobre, il n'y a pas de Grand Prix de F1. Mais le Mont Fuji, les organisateurs du Mont Fuji ont décidé de déplacer au 21 octobre, parce que il y avait un doublon avec le championnat américain d'endurance.
Beaucoup de pilotes souvent, voilà, évidemment, essaient d'y aller aussi.
Font les deux, oui. L'IMSA, et c'était le doublon avec Petit Le Mans justement à Road Atlanta.
Alors ils veulent Hein, ils ont dit bah, peut-être qu'on voudrait revenir sur la première configuration pour que Alonso puisse bien faire ses 6 heures de Fuji. Et on a tendance à penser qu'évidemment quand t'es un dirigeant japonais et que tu t'offres les services d'un double champion du monde, bah t'aimerais bien le voir aussi à la maison. Pour l'instant c'est pas possible, c'est un peu paradoxal, mais affaire à suivre effectivement. Alors attention, tu sais aussi que Fernando Alonso la semaine dernière participait aux 24 heures de Daytona, ce qui fait que sa saison elle est encore plus importante qu'on le croit. D'accord, il va y avoir ces 25 courses qui vont finalement se disputer entre le 25 mars et le 25 novembre, à savoir premier Grand Prix de l'année et dernière course d'endurance ou dernier Grand Prix de l'année. Ce qui fait, alors tu fais les comptes comme moi, moi j'en compte, 25 week-ends entre le 25 mars et le 25 novembre, ça fait 25 week-ends en 8 mois, bah ça fait quasi, oui ça fait 4 courses par mois quoi.
C'est un programme qui est extrêmement riche avec à un moment, au moment du mois de juin, 5 week-ends de suite qui s'enchaînent, le Canada, les 24 heures du Mans, le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça fait quand même beaucoup et notamment on sait que la semaine du Mans va être extrêmement chargée pour Fernando Alonso puisque il terminera le Grand Prix du Canada le dimanche. Il faudra qu'il s'envole tout de suite pour la France parce que les 24 heures du Mans, il y a la pesée, il y a la parade des pilotes, il y a les essais qui commencent dès le mercredi.
Oui.
Voilà. Donc le programme va être extrêmement chargé pour le double champion du monde qui va devoir bien gérer son temps pour pouvoir être performant sur le double tour d'horloge dans la Sarthe.
Oui, non, mais c'est sûr que ça pose pas mal de questions cette histoire et d'ailleurs nous avons un invité là qu'on vous réserve dans quelques instants qui va nous dire évidemment ce qu'il en pense de cette histoire. C'est un vainqueur des 24 heures du monde, je n'en dis pas plus pour l'instant. Non, si on veut quand même rappeler encore quelques chiffres. Donc 21 Grands Prix cette année à disputer pour Fernando Alonso. 4 courses officielles du championnat du monde d'endurance.
Peut-être 5.
On est bien d'accord. Plus cette fameuse journée d'essai préliminaire aux 24 heures du Mans, où selon moi, Fernando Alonso, tout double champion du monde qu'il est, aura l'obligation de se présenter pour, en quelque sorte, entériner sa qualification. Donc on en est déjà à 5 plus 6, ça fait 27 week-ends de prix. Mais toi, quand tu me confirmes que quand tu vois le communiqué de Toyota, tu comprends qu'il va faire toute la double saison en quelque sorte. Il faut que tu nous expliques hein, qu'en endurance, c'est une super saison qui se précise pour tout le monde.
Voilà, c'est une saison un petit peu particulière qui va commencer donc en 2018 et se terminer en 2019 avec les 24 heures du Mans. Donc en fait, dans ce championnat 2018-2019, il y a 2 éditions des 24 heures du Mans. Dans son communiqué, Toyota a annoncé que Fernando Alonso allait courir pour la saison 2018-2019. Mmh. Donc pour l'instant, il est inscrit avec Toyota sur 7 meetings sur 8 de la saison 2018-2019 de WEC.
Bon, donc ça fait évidemment beaucoup. Bon, on va juste vous rappeler que Fernando Alonso a 36 ans. Alors, il aura 37 ans en juillet prochain. Bon, ça, je crois qu'au niveau de l'endurance, l'âge du capitaine est peut-être un petit peu moins primordial. Et si d'emblée, de toute façon, il est en Formule 1 à cet âge-là, il peut l'être aussi en endurance. Oui, tu voulais dire ?
Oui, non, il est tout à fait capable de le faire. En effet, c'est pas physiquement, ce ne sera pas le problème. Le problème va être plutôt l'enchaînement des week-ends qui peut être préjudiciable. Mm-hmm. Voilà, il faut passer d'une voiture à une autre. On sait qu'un prototype, ce n'est pas une Formule 1, même si les prototypes aujourd'hui sont extrêmement performants. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il tentera de réaliser l'exploit, le même exploit que Nico Hülkenberg, qui lui, en 2015, avait fait les 24 heures, les 6 heures, pardon, de Spa et les 24 heures du Mans, 24 heures du Mans qu'il avait remporté. Mm.
Oui, effectivement, c'est le dernier exemple d'un pilote F1 en activité qui vient faire le Mans. Mais là, pour Alonso, c'est même encore plus. Alors, je vous avais promis donc un grand témoin pour nous parler de cette histoire. Eh bien, il est là en direct avec nous, c'est Benoît Trélulier, triple vainqueur des 24 heures du Mans, mesdames et messieurs. Salut Benoît.
Salut à tout le monde.
Écoute, c'est super sympa de ta part de te rendre disponible pour nous parce que effectivement, on cherchait quand même une autorité pour nous parler de cette histoire. Alors, c'est toi l'autorité, voilà, et personne n'en doute. Vainqueur du Mans en 2011, 2012, 2014 pour Audi, bien évidemment. Champion du monde à titre individuel pilote en 2012. Bref, tu es un grand nom de l'endurance. Juste un petit détour, Benoît. Tu as fait cet hiver le trophée Andros. Et d'ailleurs, ça s'est terminé hier à Superbès. Et je crois que tu es sur le chemin du retour. Alors, comment Exactement. Ça s'est passé ta saison hivernale de trophée Andros?
Avec plutôt pas mal. Écoute, c'est juste ma deuxième saison et je fais au pied du podium à la fin au championnat. Et puis, 2 victoires. On n'est que 3, voire eu plus d'une victoire cette année. On a Dubourg le champion, Rivière le vice-champion et moi. Donc écoute, c'est une bonne satisfaction. Des week-ends un peu plus difficiles, mais surtout beaucoup de plaisir. Tout encore hier, énormément de spectateurs, une ambiance incroyable dans le paddock. C'est vraiment une expérience géniale.
Bon, bah écoute, tant mieux si t'en as profité. Et puis bravo, bah oui, quatrième de l'Andros. Moi, je dis que tu peux être content et satisfait, mais honneur à Jean-Baptiste Dubourg qui remporte, mine de rien, son troisième trophée Andros consécutif. Là, tu connais la référence.
Ah bah là oui, non mais il travaille très très bien, c'est un excellent pilote, très professionnel, vraiment avec le team on fait des efforts pour essayer de vraiment être au niveau de Jean-Baptiste. Au niveau du team on est pas mal, mais bon, Jean-Baptiste a quand même fait quelque chose encore d'exceptionnel cette saison.
Voilà, donc bravo à lui, Jean-Baptiste Dubourg, vainqueur du trophée Andros 2017-2018. Allez Benoît, bah merci donc de venir un petit peu témoigner, on va dire ça comme ça, sur cette actualité qui concerne Alonso et qui est évidemment une actualité très importante dans le monde des sports mécaniques. Alors écoute, je te pose tout de suite la première question, puis on va après un peu essayer de rentrer dans le détail. Quelle est ta première réaction quand t'apprends qu'un pilote double champion du monde qui est en activité en F1, qui va faire 21 Grands Prix cette année, vient en plus faire intégralement ou presque le championnat du monde d'endurance et les 24 heures du Mans?
Bah, je pense qu'il est célibataire déjà.
C'est leur réponse.
Non mais, bon, écoute, c'est très très bien. Et si... Avant, il y avait beaucoup de pilotes de F1 qui faisaient de l'endurance, qui roulaient en F2, qui faisaient plusieurs catégories à la fois. On n'était pas des hyper spécialisés comme on peut l'être maintenant. Et je trouve vraiment d'ouvrir cette voie, de faire plusieurs catégories, et ça se fait vraiment de plus en plus. C'était très très bien, et à ce niveau-là, encore mieux. Je pense que aujourd'hui, de conduire un proto, c'est quelque chose de vraiment top, comme conduire une F1, et tout le monde veut en profiter. Et je pense que Alonso aime le sport automobile avant tout, et pas spécialement la F1, et pas seulement la F1, je dirais. Donc, je pense qu'il prend énormément de plaisir, et il a pris du plaisir en faisant Daytona. Il a montré des belles performances, et je pense que voilà, si c'est d'avoir un pilote de F1 qui vient, on l'a déjà vu aussi avec Marc Weber, qui vient d'endurance, c'est très très bien pour le championnat.
Alors Lucas Vinois, qui est avec nous aujourd'hui, a aussi une question à te poser, Benoît.
Salut Benoît. Salut. On en parlait tout à l'heure avec LFB, hein, toi qui connais Le Mans, toi le triple vainqueur des 24 heures, on sait qu'Alonso sera au Grand Prix du Canada, qui va devoir vite rentrer en France, et plus précisément dans la Sarthe. Il va avoir énormément de sollicitations médiatiques, les essais, les qualifications, la course. Est-ce qu'il va pouvoir être en forme après tout ce barnum qu'il va y avoir dans la Sarthe?
Oui, c'est honnêtement, c'est pas le premier à faire, c'est juste qu'il est un peu plus médiatisé. On a déjà vu des pilotes arriver de l'autre bout du monde. Nous, on était avec, par exemple, André au Japon, et on arrivait pour Le Mans au dernier moment. Donc, c'est quelque chose qui est largement faisable. Maintenant, il faut absolument que l'équipe gère toute la pression médiatique qu'il va y avoir autour, parce que c'est sûr que ça va être l'attraction des 24 heures du Mans.
Ah là, il n'y a pas d'autre grand titre à trouver. Hein. Ce sera forcément ça.
Voilà. Donc, c'est sûr que pour lui, ça va être compliqué à ce niveau-là, et je pense qu'il faudra être indulgent et de pas vouloir aussi qu'ils soient partout à la fois. Mmh. Et c'est important d'être dans sa bulle un petit peu et un peu isolé pendant les 24 heures du Mans. Mais honnêtement, ça fait partie du Mans aussi, d'avoir cette pression toute la semaine. Ça commence normalement le dimanche ou le lundi. Et franchement, quand vous arrivez au départ de la course, t'as l'impression que c'est presque fini. La semaine est tellement difficile, et surtout quand t'es dans les top teams, que t'as la pression pour que tu joues vraiment la victoire au Mans. Le planning est rempli minute par minute, quoi. Et nous, on avait à peu près 30 minutes de libre par jour. Donc c'était vraiment beaucoup beaucoup de travail. Et quand tu prends le départ de la course, t'as l'impression que c'est oh ça y est, c'est bientôt fini. Alors que c'est tout commence là. Donc mais il va le gérer. S'il le fait, c'est qu'il se sent capable de le faire.
Lucas,
il sera aux côtés de Buemi et Nakajima, qui totalisent plus de 80 départs en championnat du monde d'endurance. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit apprendre de ces deux pilotes pour bien figurer au Mans? On sait, c'est une course très très particulière.
Mais je pense qu'il faut qu'il reste humble et qu'il se mette pas la pression. Je pense que là, en plus, il est avec deux coéquipiers qui vont super vite. Il a beau être deux fois champion du monde, deux fois.
Oui, c'est ça, 2005-2006.
Deux fois champion du monde de F1. Je pense qu'il a affaire à quand même des pointures au niveau pilotage aussi sur sa voiture. Et il faut absolument pas en endurance essayer d'être plus vite que ses coéquipiers. Il faut juste rouler à son rythme et pas dépasser ses limites. Où il va peut-être un peu plus avoir du mal, ce sera dans le trafic, parce que en F1, malgré tout, on n'a quand même pas l'habitude de rouler dans le trafic, et qu'il fasse Spa avant, je pense que c'est vraiment un plus pour lui.
Le trafic, la nuit, hein, est-ce que c'est important ça de piloter de nuit ou de pas être habitué à piloter de nuit?
Alors après ça, ils peuvent l'éviter. Ils peuvent lui faire faire des
séances de nuit, on va dire. Ouais, d'accord.
Ils peuvent lui faire faire la tombée de la nuit, qui est très spéciale aussi, et le matin. Donc il peut bien s'en tirer avec ça. S'il est pas à l'aise la nuit, je pense que ça pourra se gérer assez facilement. Oui. Maintenant, honnêtement, alors je sais pas ce qu'il en est de temps en temps, mais les phares qu'on pouvait avoir nous sur les Audi, c'était comme en plein jour. Ça ne gênait pas beaucoup.
C'est ça. Et est-ce que c'est la nuit le plus dur au Mans, par exemple lorsqu'il pleut, c'est ça qui est le pire, ou il y a d'autres moments où c'est encore même pire?
Non, alors là, quand il pleut la nuit au Mans, c'est vraiment difficile parce qu'il y a les reflets, on voit pas tout, on n'a pas du tout la même appréciation de la piste de nuit sous la pluie qu'on peut l'avoir en plein jour ou sec de nuit. Donc honnêtement, s'il y a un moment vraiment difficile, il est là. Je veux dire, on prie tous. Moi, par exemple, la pluie ne m'a jamais dérangé, à part au Mans, et encore plus la nuit.
Alors, autre question quand même, Benoît, là, qui me passe par l'esprit. Alors, il est pro, tout le monde est pro, tout le monde va jouer le jeu, tu as dit tout à l'heure, autant qu'il reste humble, et je pense que c'est l'attitude qu'il aura, effectivement, tout Alonso qu'il soit. Bon, mais quand même, aussi pour les autres qui accueillent Alonso, est-ce qu'il peut y avoir des petits grincements de dents en voyant une superstar arriver, et qui va effectivement un petit peu tout emporter sur son passage? Est-ce que c'est bien un des secrets du Mans, ça, ce team spirit, souder une équipe autour d'un équipage? Toi, tu as symbolisé ça au maximum. Tu parlais d'André tout à l'heure, c'est André Lotterer avec Marcel Fessler, vous étiez vraiment un équipage, on pouvait pas imaginer que vous soyez avec d'autres pilotes. Donc, est-ce que tu crois que ça peut être difficile à gérer quand même, de voir arriver quand même Alonso?
Ah, franchement, ça peut ne pas être facile, mais tout ça, c'est au team de gérer tout ça. Je veux dire, il y a un team manager, et c'est à eux de faire en sorte de pas idolâtrer ce pilote et de tout centrer sur lui. Nous, on avait quand même Tom Christensen, qui était la star des 24 heures du Mans, qui était avec nous, et à l'intérieur du team, on s'en rendait pas compte. Quand on débriefait, c'était pas lui qui décidait tout. Il était comme les autres, tout le monde au même niveau. Et si Toyota gère bien ce côté-là, ça devrait bien se passer.
Bon, bah écoute, très bien. Bon, on avait juste évoqué avant de te prendre au téléphone l'âge du capitaine, donc il aura 37 ans au mois de juillet, donc il fera Le Mans juste avant son 37e anniversaire. Ça, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là.
Non, bah quand t'arrives à 71 ans, ça commence à être difficile, je pense. Mais non, mais honnêtement, le plus important, c'est vraiment la motivation. Bon. Si t'es motivé, tu peux avoir n'importe quel âge, si t'as le physique aussi, c'est bon.
Bon, et honnêtement, cette nouvelle, elle t'a étonné quand même?
Voilà, ça faisait un petit moment qu'elle traînait dans le paddock. Et non, elle m'étonne pas. Il a quand même, ça fait aussi un moment qu'il s'intéresse au Mans. Donc, non, elle m'a pas étonné plus que ça. Non.
Bon, allez, dernière question. Tu parlais quand même du pilotage d'un proto. Bon, bah c'est quand même différent d'une F1. Donc, il va falloir quand même qu'il apprenne à vraiment piloter ce genre de machine.
Le côté hybride et l'économie d'énergie en faisant le lift, c'est quelque chose auquel il n'est pas du tout habitué. Et même à Daytona, où il a roulé avec une LMP2, c'est pas du tout le même pilotage. C'est des voitures qui se ressemblent, mais de gérer une voiture hybride, c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc ça va être plus difficile pour lui, à mon avis, de s'adapter pour être au top du top en LMP1 hybride que ça a pu l'être en LMP2. Mais c'est pas non plus, il sera, quoi qu'il arrive, il sera pas loin, et pour sûr il peut jouer Le Mans.
Voilà. Et oui, et donc c'est vrai qu'il n'y a un peu que Toyota cette année en grand constructeur officiel, et qui aura face à eux des protos privés, hein, comme on dit. Donc c'est vrai que c'est peut-être en plus la bonne année. Là, il est pas complètement malchanceux, mais c'est pas pour ça que sa victoire serait amoindrie.
Non, du tout. Une victoire au Mans, c'est une victoire au Mans aussi. Je veux dire, après, et même pour Toyota, je veux dire, ils ont montré un très beau potentiel pendant toutes ces années. Ils se sont bagarrés jusqu'au bout à chaque fois. Ils méritent une victoire au Mans, honnêtement. Oui. Et même si cette année, ils se retrouvent un peu tout seuls, Le Mans reste Le Mans. On l'a vu, cette année, ils font derrière une LMP2. Donc, s'ils se repassent exactement la même chose que cette année, ils peuvent ne pas gagner Le Mans. Et encore plus, avec les LMP1 qui vont arriver, il va y avoir vraiment des LMP1 avec des line-up et des configurations techniques qui vont vraiment être intéressantes. Et je pense au Mans, ça va pas être si facile que ça.
Ouais, non, mais c'est pas fait, effectivement. Voilà, je te remercie vraiment beaucoup, hein, Benoît. Lucas apprécie aussi de pouvoir discuter avec un vainqueur des 24 heures du Mans. Donc, c'est pas tous les jours. On te remercie vraiment beaucoup, Benoît, et à très bientôt, j'espère.
Hein. À bientôt.
Voilà, donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité Fernando Alonso, qui a démarré en Formule 1 en 2001, faut-il le rappeler, c'est quand même incroyable, et qui donc va entamer cette année dans 7 semaines, hein, Lucas, le Grand Prix d'Australie, la première manche du championnat du monde 2018. Merci Lucas, à bientôt. Je voudrais juste qu'on refasse un petit détour par le tennis. Eric Salio, donc toujours à Albertville pour le quatrième match du week-end, France-Pays-Bas, ce premier tour de Coupe Davis. C'est à toi Eric, où en est-on?
Le match 4, comme on dit dans le jargon du tennis, et début compliqué pour Adrien Manarino, puisqu'il est mené 3-1 par Robin Haseut, un garçon qui a beaucoup plus l'expérience de la Coupe Davis que lui, et pour l'instant donc ça se voit. Et puis en plus tactiquement, eh bien le Néerlandais pose de gros problèmes à Adrien Manarino. 3-1 Pays-Bas et même balle de 4-1.
Écoute, tu vas nous tenir au courant, bien évidemment. Allez, on va entamer dans quelques instants une page spéciale moto dans Motors. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h. Motors, Laurent-Frédéric Bollet.
Allez, on va entamer la deuxième partie de l'émission, si vous le voulez bien, où nous allons recevoir deux pilotes de prestige.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 120.
Le briefing.
Voilà, dans le briefing, nous donnons la parole à des champions. Et là, c'est le cas. Et j'ai vraiment un énorme plaisir à accueillir Milko Potisek, qui est en direct avec nous. Bonjour Milko.
Bonjour tout le monde.
Alors je vais rappeler si besoin est que tu es donc le vainqueur 2018 de l'Enduropal du Touquet. C'était dimanche dernier, c'est une des plus grandes courses moto au monde. Moi je le pense sincèrement, et de toute façon chaque année de voir ces 1000 motards à l'assaut, hein, lors du premier tour de la plage du Touquet, c'est vraiment un spectacle extraordinaire. Ensuite il faut un petit peu plus slalomer, hein, pour les meilleurs, mais tu l'as fait et c'est donc toi au bout de 3 heures de course qui a donc gagné cette course. Alors Milko, mes deux premières questions, elles vont être simples. C'est d'une part, qu'est-ce que tu ressens une semaine après quand tu te dis que j'ai bien gagné le Touquet? Et deuxième question, est-ce qu'il t'a fallu toute la semaine pour t'en remettre au niveau physique, je dirais même?
C'est à toi. Ça s'est remis assez vite. Hein, vu que j'ai gagné, forcément, on pense pas forcément aux courbatures, et etc. Et c'est surtout que j'étais vraiment prêt pour les 3 heures de course. Donc, physiquement, j'ai pas vraiment subi.
Bon, tant mieux.
Et après, c'est sûr que une semaine après, je suis super content d'avoir gagné. Mais je m'étais vraiment dit une semaine un peu off et coupée de la moto.
Ouais. Ça a été le cas.
Parce que j'ai fait le début de semaine, parce que maintenant j'ai assez de motocross qui m'attend, donc je veux continuer sur ma lancée et vu mon état de forme. Donc dès la semaine prochaine, je rattaque.
Voilà. Donc tu t'es quand même accordé quelques petits moments de détente.
Ouais, il fallait quand même, ça faisait 6 mois que je m'entraînais vraiment fort pour le Touquet, et surtout ça aurait été vraiment compliqué de rouler cette semaine. J'ai eu pas mal d'appels, j'ai passé quasiment toutes mes journées au téléphone.
Et bien voilà, et tu vois, on t'embête même encore le dimanche, alors que tu pourrais peut-être profiter d'un déjeuner en famille tranquille. Faut qu'on t'embête, tu vois, ça change la vie alors, hein, une victoire au Touquet, c'est ce que tu dirais?
Mais après, c'est un plaisir d'être avec vous en direct.
Écoute, c'est gentil. Alors, je vais rappeler que tu as 28 ans, que tu es originaire de Dunkerque et que tu as donc remporté cet Enduropal du Touquet à ta 8e tentative. Alors, tu me vois venir. Est-ce que tu y croyais que tu pouvais le faire un jour, ou tu commençais un petit peu à en douter?
Non. Mais après, je suis passé vraiment plusieurs fois pas loin de la victoire, et notamment l'année où je suis classé deuxième après l'histoire du drapeau rouge. Après également 2 ans après, où je suis en tête pendant plus d'une heure et demie et la moto casse. Donc j'ai aussi 3 podiums à mon actif. Hein. J'avais fait 2 fois troisième et 1 fois deuxième. Donc non, je doutais pas que... Enfin, je savais que j'en étais capable. Après, faut mettre tout bout à bout le jour J. On a beau faire toutes les courses de préparation, au Touquet, tout peut se passer. Bon, cette année, ça l'a vraiment fait pour moi. Je suis content d'avoir mis mon...
au Touquet et maintenant je vais essayer d'enchaîner le plus de victoires possible.
Oui, oui. C'est quoi le plus dur dans un Endurpal du Touquet? C'est la météo, le froid, le vent, le sable, le trafic, ceux qui sont moins rapides que toi et qui te gênent peut-être, c'est quoi?
À la météo, c'est pas forcément un problème étant donné que c'est le même pour tout le monde. Après, le sable, c'est notre spécialité aux pilotes qui participent au Touquet. Donc ça, oui, c'est costaud, mais c'est pas non plus notre point numéro un. Ouais. Je dirais, c'est vraiment le trafic. Il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Il faut être toujours vigilant. Faut être vigilant pendant les 3 heures de course. Et cette année, j'étais vraiment en vitesse de pointe l'un des plus rapides.
Oui.
Et du coup, j'ai vraiment pu rouler avec une marge pendant les 3 heures et vraiment prendre le moins de risques possible. Donc c'est ce qui fait que je suis resté sur mes roues pendant 3 heures. J'ai eu aucun accrochage et j'étais gagné. Ouais.
Mais dans ton dernier tour, oui, on te suit. Alors je te confirme quand on est spectateur et téléspectateur, on frémit, quoi. On a l'impression qu'effectivement tous ceux qui sont devant toi et que tu es en train de doubler vont te gênent, ça c'est sûr. On a vraiment l'impression qu'ils te gênent vraiment mais c'est pas de leur faute. Ils peuvent pas voir que le meilleur arrive derrière beaucoup plus rapide qu'eux et c'est terrible le stress qu'on arrive à ressentir parce qu'on a vraiment l'impression que ça peut se jouer à pas grand-chose et que tu peux tomber parce que quelqu'un t'a pas vu et que c'est vraiment pas de ta faute. En plus, là il y avait une gestion un peu du temps, on se demandait si t'allais pas devoir repasser la ligne et repasser pour un tour. Tu te souviens de ce dernier tour, si toi aussi, t'as vraiment eu ce stress un petit peu global?
Non, moi en fait, ce qui était bien, c'est que j'étais persuadé après mon dernier ravitaillement de repartir pour 2 tours. Et du coup, j'étais également persuadé que Watson était beaucoup plus près de moi. Donc c'est pour ça que je suis vraiment reparti un peu avec le couteau entre les dents et j'ai vraiment fait un gros tour. Et quand je suis arrivé devant la ligne d'arrivée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, ça me paraît un peu tôt pour que la course soit déjà finie. Et quand j'ai vu le monde sur la ligne d'arrivée, je me suis dit, je pense que ça y est, c'est fini. Et du coup, ça m'a évité de faire un tour supplémentaire.
Oui.
Et surtout, c'est bien, c'est que j'ai...
Je
savais que ça aurait été le dernier, donc... tu te poses un peu de questions. Là, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en poser.
Et puis alors, tu nous as offert une image géniale. Tu franchis la ligne, tu comprends que tu gagnes. Et là, moi, je dis ça comme ça. Tu balances un peu ta moto, mais dans un mouvement de délivrance. Hein, donc, ta Yamaha, puisqu'on va évidemment signaler que t'as gagné sur Yamaha, formidable. Tu lâches ta moto. Hein, tu mets les gaz, mais tu la lâches et tu montres à tout le monde que ouais, je l'ai fait, j'ai gagné. Quoi, il y a une véritable délivrance. C'était très très fort.
C'était un moment que je rêvais depuis vraiment longtemps. Et vu que j'étais vraiment pas prêt à passer la ligne d'arrivée aussi vite, je veux pas dire que je savais pas quoi faire, mais du coup, c'était plus un geste de délivrance, en aucun cas pour abîmer.
Non, bien sûr. Tout à fait. Ouais, mais on a tous vu que t'étais. C'était la vraie joie qui s'exprimait là. C'était très fort. Milko, c'est émouvant aussi cette victoire. Hein, tu le sais mieux que personne, puisque ton cousin Timothée Potisek avait remporté avant toi le Touquet. Donc le nom Potisek avait déjà été mis à l'honneur en 2006 et 2009. Et on sait que Timothée nous a quitté tragiquement après un crash à l'entraînement au mois de novembre 2009. Est-ce qu'effectivement, on peut dire que tu penses beaucoup à Timothée, que tu as pensé à lui au moment de cette victoire?
Je veux pas dire ce dossier-là, mais j'ai jamais parlé de ce qui était arrivé à mon cousin, parce que forcément, ça m'a vraiment énormément marqué. On s'entraînait beaucoup ensemble, on roulait quasiment toujours ensemble. Donc, c'est sûr que ça m'a fait un gros choc, et c'est la première pensée que j'ai eue quand j'ai passé l'arrivée dans ma tête. C'était aussi un petit geste pour Tim. Après, j'avais pas spécialement prévu d'en parler, mais tout le monde m'a directement parlé de ça, mais c'est sûr que j'ai beaucoup pensé à Tim.
En tout cas, je te remercie de ta franchise et on ne peut que dire que c'est une très belle victoire effectivement à tous les niveaux et je crois qu'effectivement c'est tout simplement beau et que tu peux être fier de toi et que Timothée là où il est peut être fier de toi également. Je te remercie vraiment beaucoup. Milko Potisek, donc vainqueur de l'Enduropale du Touquet 2018. Mon cher Milko, bienvenue dans le monde des grands champions français, hein. Et puis on va te suivre attentivement et puis on prendra tes nouvelles, j'espère, de temps en temps pour que tu nous dises ce que tu deviens, hein, en attendant l'année prochaine bien sûr.
Bon, pas de problème. C'était gentil. Et maintenant, c'est parti pour un petit repas de famille.
Voilà.
Côté boutiquier, qu'on est 105. Donc, nickel.
Ah ouais? Oui, bah oui, parce qu'entre les cousins, tout ça, il y en a. Mais donc, je pensais pas que c'était à ce point-là. Bon, bah écoute, tu salues tout le monde de notre part. Et longue vie à la famille Petit Sec. Bravo, Milko. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Voilà, c'était sympa. Il s'est libéré pour nous, dans un grand repas de famille. Milko Petit Sec. Allez, on enchaîne. Autre champion moto qui est avec nous en direct. C'est Loris Baz. Salut, Loris.
Salut tout le monde, vous allez bien?
Bah écoute, ça va super et je te remercie. Toi, t'es un habitué de l'émission Motor, c'est toujours un plaisir que de te retrouver, de prendre de tes nouvelles. Surtout que là, bah ça vaut le coup puisqu'on est à quelques semaines, pas plus, trois du début de la saison. Bah tiens, juste, j'en profite quand même pour rebondir. Là, t'écoutais la fin de l'entretien. Bon, l'enduro pas du Touquet, toi, t'es moto de vitesse, bien sûr. Mais enfin, c'est peut-être quand même le genre de truc que tu regardes où tu sais la valeur, ce que c'est de gagner une épreuve pareille.
Non, c'est sûr. J'étais en test à Portimao quand il y avait le Touquet, et chaque fois que je rentrais de la séance, je mettais la télé sur mon téléphone pour regarder où ça en était.
Ah bah voilà.
Donc voilà, j'ai commencé par le tout terrain, j'ai commencé par le cross, et je suis un passionné de sport en général, de sport bien sûr motorisé, et je suis dès que je peux, j'essaie de suivre.
Ouais, non, mais là honnêtement, là 3 heures dans le sable à cette période de l'année, je crois que les gars ils sont forts, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, ouais. Et toi, t'es fort aussi, puisque évidemment faire du MotoGP ou maintenant le championnat du monde Superbike, c'est pas donné à tout le monde. Donc la nouvelle en ce qui te concerne, c'est que tu quittes le MotoGP et tu reviens en championnat du monde Superbike, mais qui était évidemment un grand championnat du monde moto. Tu le vis bien ce retour, si j'ose dire, dans ce championnat à Superbike?
Oui, je le vis bien. C'est un nouveau challenge, c'est un retour à la maison et c'est d'autres objectifs qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Après, il y a eu un petit moment de déception de quitter le MotoGP dans ces conditions qu'on connaît tous, mais voilà, je me suis vite remotivé. C'est un projet qui me plaît en Superbike. J'ai envie de retrouver les places qui étaient les miennes il y a quelques années dans ce championnat, gagner des courses, me battre pour les podiums et viser le titre le plus vite possible. Je sais pas si cette année ce sera possible, mais le plus vite possible.
Bon, ça, tu vas nous le préciser un petit peu après. Je vais rappeler qu'effectivement, entre 2012 et 2014, ta première vie, si j'ose dire, en Superbike, tu gagnes quand même 2 fois et tu fais 5e du championnat en 2014. Tu étais une tête d'affiche du Superbike.
Ouais, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Je manquais encore un peu d'expérience, mais la dernière année, c'est vrai que je me suis battu, j'ai passé presque toute la saison dans les 3 premiers du championnat, à être un candidat potentiel pour le titre, même s'il me manquait encore un petit quelque chose à l'époque. Mais ouais, c'est un championnat dans lequel je me suis vraiment amusé. Je crois que j'ai fait 10 podiums la dernière saison. Mm-hmm. Donc voilà, hâte de me battre pour retrouver ces positions-là. C'est une autre motivation et on va dire que c'est plus facile de se motiver pour s'entraîner quand on sait qu'on va pouvoir se battre pour des avant-postes que pour des top 10 ou des top 10.
Oui, mais malgré tout, en MotoGP, moi, j'ai fait mes petits comptes, Loris. Donc 3 saisons pleines, ou presque, 2015-2017, 33 Grands Prix au total, si j'ai bien fait mes comptes. Tu fais 2 fois 4e, ce sont tes 2 meilleurs résultats. Tu fais 7 fois dans le top 10, mais enfin, 2 fois 4e. Mais à bien y repenser, c'est quand même extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire quand on fait les moyens des équipes dans lesquelles j'étais. Il y a des grosses différences en MotoGP. C'est un peu comme en F1 et on va dire que c'est comme si une des équipes les plus lentes du championnat en F1 faisait des top 4 et des top 5.
Je crois
que c'est 3 top 5. Donc non, c'est bien battu. J'ai toujours réussi à tirer mon épingle du jeu dans les conditions qui me plaisaient sur le mouillé. Après, on a fait aussi des belles courses sur le sec. Donc, en tout cas, j'ai appris énormément. Ça a été une super expérience. Et je me suis bien amusé. Et puis en roulant à côté des meilleurs pilotes du monde, on progresse énormément.
Oui, non, mais voilà, je crois qu'honnêtement, il faut vraiment être réaliste, mais en même temps positif, mais réalistement, tu as fait quand même, tu t'es montré, t'as su t'exprimer et t'as quand même eu des super résultats. Ce qui fait que quand tu reviens là maintenant, donc pour cette saison 2018 en Superbike, moi j'estime que tu as une aura supplémentaire, une carapace supplémentaire et que tu peux vraiment viser des grandes choses. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel environnement tu arrives, pour quelle marque, quelle équipe, comment ça va se passer pour toi alors?
Alors j'arrive dans l'équipe Altea, qui est une équipe qui a été championne du monde, je crois, en 2011 avec Carlos Checa. C'est une équipe privée qui engage une BMW maintenant, donc je serai la seule BMW sur la grille de départ.
Ah oui, d'accord, intéressant.
Voilà, c'est une équipe privée, on roule avec l'électronique issue de la moto d'origine. Donc vraiment un projet privé. Et avec voilà, une équipe très motivée, très, vraiment très efficace. Et on va voir. Quoi. L'objectif, c'est d'essayer de... On espère un retour plus officiel, de manière plus officielle et avec plus de moyens de la part de BM l'année prochaine. Mm-hmm. En tout cas, cette année, c'est l'objectif, c'est de réduire l'écart avec... avec les machines de tête, donc les Kawasaki qui dominent vraiment depuis quelques saisons, les Ducati, essayer de réduire cet écart au maximum et qui passe pour les podiums.
Voilà, avec un Anglais qui est vraiment la référence absolue en superbike, hein, Jonathan Rea, qui est vraiment un multi-champion du monde maintenant et qui va être ton adversaire principal.
Oui, non, c'est sûr. C'est le favori, et c'est normal, trois titres de suite, il domine et on sait qu'on domine un sport, on prend toujours plus confiance et on continue à progresser.
Ouais, donc, non, c'est sûr.
Il est dans une super spirale avec une des meilleures motos, avec la Ducati, je pense. Non, c'est à nous de travailler du mieux possible pour réduire cet écart, même si c'est une équipe privée, je pense que on a le moyen d'essayer d'aller à la vie dure de temps en temps. Quoi.
Voilà. Bon bah écoute, bon vent à toi pour cette saison. Donc ça démarre dans moins de 3 semaines. Hein. Phillip Island en Australie. Tu vas peut-être pas tarder d'ailleurs à t'envoler pour l'Australie, non?
Exactement, dans 10 jours. Exactement.
Ouais, c'est ça. Hein. Bon, il y a des essais avant et puis donc le premier grand week-end entre le 23 et le 25 février à Phillip Island. Bon bah Loris, on est avec toi. Moralement, ça c'est sûr. Et puis par la pensée aussi. Et voilà, on va te suivre très attentivement cette année 2018. Bon rebond à toi, mais on ne doute pas que tu auras des moyens à faire valoir et des cartes à abattre. Salut Loris, à bientôt donc.
Merci à vous, à bientôt.
Voilà, Loris Baz qui revient dans le championnat du monde Superbike. Ce sera à suivre tout au long de l'année, bien sûr, dans Motors. Retour à Albertville, le tennis. Alors, Eric Salio, ce premier set qui avait pas l'air d'être super bien engagé pour l'équipe de France dans cette dernière journée. Comment ça a continué?
Malheureusement, on est sur la même tendance puisque Robin Haase mène désormais 5 jeux à 3 dans cette première manche. Et c'est vrai qu'il cause pas mal de misère à Adrien Manarino qui est mieux classé sur le papier parce qu'il est 25e alors que le Néerlandais est 42e. Il y a un déficit d'expérience en termes de Coupe Davis pour le Valdoisien et c'est vrai que ça se ressent un peu. On va pas céder à la panique, mais pour l'instant l'avantage est au Néerlandais qui risque quand même d'accuser un peu la fatigue parce qu'il a joué en simple vendredi, il a joué le double hier alors que Manarino lui a été préservé hier. Donc 5 grands Pays-Bas.
C'est vrai. Ok, c'est Eric. Ok, on continue de suivre ça très attentivement. Allez, dans quelques instants, Motors continue et on va balayer le spectre de toutes les news, hein, disons ça comme ça, du monde du sport mécanique. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
Il est 13h43, on est ensemble jusqu'à 14h et nous entamons donc la dernière partie de Motors.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
J'aime bien à chaque fois qu'on réécoute Lewis Hamilton hein, qui réagissait à l'une de ses victoires, de ses nombreuses victoires, et on a gardé ce son là pour notre jingle. C'est bien, on est dans l'ambiance avec Benoît Boutron qui m'a rejoint. Salut Benoît.
Salut LFB, bonjour à tous.
Alors on va passer en revue, hein, c'est un peu le principe de cette dernière partie, pas mal d'actualités, de différentes disciplines en sport automobile.
Alors, exactement, démarrons par la Formule 1, tu l'as vu.
Carrément.
Terminé, fini les grid girls, eh oui, ces jeunes femmes que vous avez l'habitude de voir au début des Grands Prix avant le départ de la course qui portent des pancartes évidemment devant chaque voiture de pilote. Terminé pour cette saison en Formule 1, une décision prise par Chase Carey, le patron américain de la Formule 1. Cela ne correspond plus aux valeurs du sport automobile. Je te lis même la phrase exacte de Chase Carey. Cette coutume ne fait pas écho à nos valeurs. Elle est clairement en contradiction avec les normes sociétales modernes. Donc il a un peu cédé à l'opinion publique sur cette question, Chase Carey. Terminé pour les Grid Girls. Évidemment, ça fait beaucoup réagir. Et avant d'avoir ton avis, je veux quand même te lire la réaction des principales concernées, les grid girls, justement, les représentantes.
Certaines se sont exprimées, on est
de
d'accord.
Ce mouvement, et du coup, elles sont très déçues par cette décision, notamment, je vais t'en citer une, Lauren Jade, qui dit carrément « Les féministes nous ont fait perdre notre job. J'ai été grid girl pendant 8 ans. Je ne me suis jamais senti mal à l'aise. J'adore mon travail et si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais pas fait. Personne ne nous force à le faire. C'est notre choix et c'est notre travail que nous enlève. »
Bon, alors effectivement, ça
c'est un sujet délicat à traiter.
Je vais pas là commencer à vous donner des vérités qui seraient ultimes ou que mon point de vue serait celui qui que bon, chacun a son point de vue, c'est évident que c'est sensible, c'est évident que c'est un débat contemporain qui agite pas seulement le sport ou la Formule 1. Donc voilà, en tout cas, ça y est, ça vient toucher aussi notre sport premier, à la discipline reine, comme on dit, du sport automobile.
J'ai une question pour toi sur ce sujet. Est-ce que ça a un rapport également avec la mondialisation de la Formule 1 et justement l'exportation vers des pays asiatiques qui ont peut-être des coutumes plus...
Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps sur des grands prix, effectivement, dans des zones un peu peut-être plus proches du Proche-Orient, où bah, des jeunes femmes étaient là aussi. Bon, elles sont habillées différemment.
Ça n'a rien à voir.
Oui, non, ça faisait vraiment partie du décorum, mais je crois pas que c'était une exploitation manifeste.
Et pour info, la BBC a mené un sondage justement sur ce sujet, et le résultat, c'est que 60% des sondés sont favorables au maintien des filles sur la grille.
Oui.
Comme quoi...
Si on était certain...
C'est pas non plus une demande du public, si tu veux.
Formule. Si on était vraiment certain que ça se faisait dans des conditions limites, que effectivement ces jeunes femmes n'étaient quasiment pas payées, avec des horaires de travail démentiels, dans des conditions de travail très difficiles, bon. Honnêtement, je crois pas que c'est le cas. Je crois pas qu'il y a un organisateur, un promoteur de Grand Prix qui avait pris ce risque. Je pense que ça participait effectivement d'une fête, d'une certaine image du sport automobile, où effectivement, nous mettons à l'honneur, une jeune femme belle, c'est ça le but, à côté de voitures et de sportifs qui vont en découdre. Enfin, je crois honnêtement pas qu'il y a jamais eu une volonté d'exploiter l'image de la femme ou de franchir certaines limites. Maintenant que certains pense que c'est quand même le cas. Je vais respecter cette pensée. Je trouve que c'est quand même un petit peu too much, si vous me permettez l'expression.
Pour terminer sur ce sujet, il faut bien signaler que la Formule 1 n'est pas la seule discipline à avoir changé sur ce sujet. Les grid girls ont été supprimées sur les 24 heures du Mans depuis 2015.
C'est vrai.
Et en Formule 1, tu as vu, on a remplacé les grid girls par des jeunes pilotes de 10 à 15 ans, donc qui sont postés devant les voitures.
Bon. Si maintenant il faut faire venir des enfants qui vont tenir la main aux pilotes comme lorsque les joueurs de foot rentrent sur les pelouses, moi j'aime bien, j'ai toujours trouvé ça plutôt mignon. Mais bon, si je comprends bien, dans 15 jours, quelqu'un va dire on exploite les enfants aussi. Enfin, voyez, c'est sans fin. Bon,
exactement.
Alors, la Formule 1, là, il y a quand même une déclaration que j'ai pas appréciée. Là, je le dis franchement, cette discipline qui fait vraiment beaucoup parler d'elle, parce que la déclaration a été un peu hautaine et ça a consisté à dire à la Formule 1, bienvenue au 21e siècle.
Oui, exactement. Bon, oui, c'est vrai.
Dites tout de suite qu'on est complètement stupide et qu'effectivement nous sommes rétrogrades et des beaufs, quoi. Enfin, disons-le franchement. Excusez-nous, que vous seuls détenez la vérité, puis pas nous. Non. On était au 21e siècle aussi, c'était pas un scandale. Maintenant, peut-être qu'effectivement, faut un peu atténuer cette image qu'on te véhiculait. Je veux bien l'accepter, mais bon, faut peut-être pas non plus verser d'un versant à l'autre.
Voilà. Autre événement qui va te faire réagir certainement sur la Formule 1, tu as vu que la saison prochaine, l'horaire des Grands Prix...
Cette saison,
la saison qui arrive dès le mois de mars, l'horaire des Grands Prix européens va changer. Vous le savez, les Grands Prix européens, que ce soit en Espagne, en France ou peu importe, démarrer à 14h. Nouvel horaire, alors pour la France, on verra après, ce sera un peu différent.
Oui, il y a un cas particulier.
Exactement, mais nouvel horaire pour cette saison pour les Grands Prix européens, 15h10. Alors c'est important de dire 15h10, puisqu'on s'adapte à la mode américaine, LFB.
Oui.
En fait, on ne démarre plus à l'heure pile, puisqu'on se rend compte que les gens, en fait, arrivent souvent à l'heure pile et qu'il faut 10 minutes de, entre guillemets, dramatisation avant que les feux rouges s'éteignent et que les voitures partent.
Je vais te le dire franchement, mon cher Benoît, c'est vrai que beaucoup de chaînes de télévision font leur grille de programme en fonction d'une heure qui serait un peu pile à l'heure. Donc on prend l'antenne, et là, partir tout de suite dans un tour de formation, c'était trop tôt. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire un peu 5 minutes d'évacuation de grille où on peut planter le décor. Une page de pub, on n'est pas idiot non plus, et on revient, et effectivement, c'est le départ du tour d'information vers 15h08, et ce qui permet d'avoir un départ qui sera globalement à chaque fois prévu pour 15h10 sur les Grands Prix européens classiques.
Exact.
Après, ça peut être dans les heures locales, on sait que Singapour c'est de nuit, Paris c'est de nuit, mais les Grands Prix européens qui étaient traditionnellement à 14h, Italie, Monaco, Espagne, ça passe maintenant à 15h10.
Et on peut aussi être franc avec les auditeurs, c'est aussi un choix dicté par les médias américains. Évidemment, 15h, c'est plus pratique aux États-Unis que 14h. Ça fait une heure de plus de sommeil. Rappelons qu'il y a, par exemple, 9 heures de décalage avec Los Angeles.
Espagne, Monaco, Autriche, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Belgique, Italie. Cette année, ces 8 grands prix emblématiques européens seront bien à 15h10 au départ. Donc sur RMC, avec Jean-Luc Croix, avec Adrien Tambay et avec Louis Amar, ça sera bien à partir de 15h10. Par contre, il y a un contre-exemple.
Eh oui, le Grand Prix de France, vous le savez, c'est le grand retour cette saison. Ce sera le 24 juin. Lui, il partira à 16h10. Pourquoi? On sera en pleine Coupe du Monde de foot en Russie et c'est pour ne pas rentrer en confrontation avec un match de Coupe du Monde. L'affiche est pas extraordinaire, oui, ce sera à 14h, Angleterre-Panama. Mais voilà.
Oui, Angleterre, ça commençait bien, mais Panama, alors.
Oui, oui.
Bah, tiens, allez, je me lance et je l'avoue, je savais même pas qu'ils étaient qualifiés par la Coupe du Monde de football. Panama. Ah,
et du coup, le départ du Grand Prix sera donné à 16h10, donc ce dimanche 24 juin.
Oui, alors, j'ai pu quand même m'intéresser à j'ai été voir quelques réactions sur les forums. Bon. Honnêtement, on a toujours fait ça. Hein. Je me souviens, les 24 heures du Mans en 98, il démarre à 14 heures et c'est parce que pareil, il y a la Coupe du Monde en France.
Regarde, le Tour de France est décalé d'une semaine avec la Coupe du Monde.
Tout à fait. Donc ça, c'est, il n'y a pas un promoteur, un organisateur qui va pas regarder ça. C'est tout à fait même pro que de savoir qu'il y a qu'on peut gérer tous ces grands événements mondiaux. Non, 16 heures. C'est vrai que c'est tard, du coup. Alors, il y aura pas de problème pour la lumière, bien évidemment, le 24 juin. Simplement, c'est vrai, les premières réactions des gens, c'est par rapport à l'organisation d'un tel voyage, d'un tel déplacement. Un Grand Prix qui démarre à 16h, faut compter 2h avec le podium. Ça veut dire que ça se terminerait pas de fait avant 18h. Après, faut aller au parking, reprendre sa voiture. Donc, on
20h, 21h.
On peut estimer qu'on part pas du circuit avant peut-être 19h, quoi qu'il arrive, pour spectateur lambda. Mmh. Et si... Vous êtes venu au Grand Prix de France, parce qu'on sait que déjà là c'est complet, hein, et que vous venez un peu des quatre coins de la France, qu'il y a beaucoup d'heures de route, partir à 19h du circuit, c'est pas la même chose que si on était parti à 16h.
Et l'accès au Castellet est pas très facile, hein, apparemment.
Oui, c'est vrai que c'est sur un plateau un petit peu en hauteur, mais magnifique, mais c'est vrai qu'il y a pas énormément de route, c'est pas long, ça longe pas une autoroute.
Exactement.
Donc, oui, c'est vrai que ça peut un peu bouleverser et gêner les gens que d'avoir un horaire qui est 2 heures plus tard que d'habitude. Bon, en tout cas, c'est comme ça, hein, donc 15h10, les Grands Prix européens et l'exception du Grand Prix de France.
16h10. Grand Prix de France le 24 juin évidemment sur RMC. Autre info Formule 1, on va vous donner des nouvelles de Rubens Barrichello. Évidemment, vous vous souvenez de ce pilote brésilien de Formule 1 entre 93 et 2011, effectivement coéquipier notamment de Michael Schumacher. Et bien écoutez, on a été un petit peu inquiet pour lui. Il a été hospitalisé sur ces derniers jours, il souffrait d'importants maux de tête et finalement il a rassuré un petit peu tout le monde sur les réseaux sociaux. Il a expliqué, en fait il s'est levé samedi dernier avec un terrible mal de tête. Il a avec sa femme appelé un ami médecin qui l'a tout de suite conduit à l'hôpital. A priori, un problème au niveau d'une veine. Ça semble s'arranger. Donc, des nouvelles rassurantes pour Rubens Barrichello.
Mais oui, c'est ça. On avait vu passer ça. Donc, effectivement, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère que ce soit pas trop grave pour lui.
Peut-être un coup de tonnerre en MotoGP. C'est l'autre grande discipline. On adore en parler ensemble.
J'ai pu voir des choses. Alors, vas-y, par quoi veux-tu commencer?
J'ai envie de démarrer par Valentino Rossi.
Je m'en doutais.
La star de la discipline, évidemment, vous le savez, il aura bientôt 39 ans et il a fait une déclat très importante cette semaine. Il sera bien engagé cette saison avec Yamaha et il décidera après 3 grands prix, c'est-à-dire après la course à Austin aux États-Unis, s'il continue ou pas, puisqu'on le sait, il est en fin de contrat à la fin de l'année 2018, si la légende de MotoGP poursuivra sa carrière ou non. Il se laisse donc 3 grands prix pour décider. Il aura 39 ans le 16 février. Rappelons également...
Oui, donc il commence l'année à 39 ans plein, d'accord.
Exactement. Ouais. Et rappelons également que son coéquipier Maverick Vinales, lui, s'est réengagé pour 2019 et 2020. On ne connaît pas encore la réponse de Valentino Rossi. Et vous vous en doutez, on pense notamment à Johann Zarco.
Bah oui, bien sûr.
Il pourrait en profiter, pourquoi pas.
Non, mais c'est vrai que cette annonce mérite qu'on s'y attarde un petit peu, parce que alors c'est vrai, ce sera le 3e Grand Prix de l'année. Donc c'est au Qatar que ça commence le 18 mars. Ensuite, on va en Argentine le 8 avril, et c'est donc ce fameux Grand Prix dit Cota, hein, des circuits des Amériques à Austin le 22 avril.
Je vais vous lire sa déclaration exacte.
Oui, vas-y.
Voyons déjà comment les tests hivernaux se déroulent. Donc il y en a eu à Sepang, il y en aura à Losail, et surtout les 3 courses. Donc on le rappelle, Qatar, Argentine et Texas. Et sa déclat exact à Valentino Rossi, c'est « si je suis compétitif », il parle même pas de la moto et même pas de Yamaha, il dit « si moi je suis compétitif, je continuerai ». C'est-à-dire que s'il voit qu'il n'est plus dans la course pour le podium ou pour gagner des Grands Prix, il décidera d'arrêter sa carrière de MotoGP.
Eh oui, non, mais on se souviendra peut-être que c'est bien aujourd'hui qu'on a commencé à évoquer pour la première fois de manière très sérieuse l'après Rossi.
Et il faut savoir prendre sa retraite quand on est un champion, peu importe le sport. Hein. C'est vrai que c'est un moment
là,
compliqué.
Là, c'est une déclaration importante, hein, effectivement. Un tel nom est en train peut-être de préparer le terrain à effectivement nous dire au revoir.
Alors
Il y a d'autres nouvelles.
Ah oui, autre bouleversement en MotoGP, et ça, ça va pas ravir les fans qui nous écoutent, évidemment. Certains grands prix vont être raccourcis cette saison. Alors, il y a plusieurs explications. On va évidemment les détailler en nombre de tours. Par exemple, Austin passera de 21 à 20 tours. Le Mans va être impacté de 28 à 27 tours. On parle bien de MotoGP. Hein.
Oui.
Et le plus touché, il me semble que c'est Valence.
Ouais, le dernier.
Hein, c'est ça, qui perd trois tours.
Oui, trois tours.
Effectivement. Alors, plusieurs raisons invoquées. La première, une demande des pilotes, de certains pilotes, d'après la commission de sécurité, qui trouvait que les grands prix étaient un petit peu longs, qu'ils terminaient vraiment usés ces grands prix. Il y a également l'usure des pneus. Hein, on en a longtemps parlé. Ça a souvent fait la différence en MotoGP. Mais la raison principale, on va pas se cacher non plus, LFB, c'est certainement l'apparition sur certaines courses du championnat FIM Moto e-World Cup, entre guillemets les motos électriques,
voilà,
qui devraient faire leur apparition entre les trois catégories, Moto 3, Moto 2, Moto GP. On aurait peut-être donc sur certains week-ends l'apparition des motos électriques. Et d'ailleurs, je regardais un grand prix de moto électrique, c'est 8 tours.
Oui.
Donc c'est vraiment histoire de dire qu'on a fait un peu de moto électrique. Quoi.
Bon, ben en tout cas, t'as tout dit. Voilà, ça y est, la moto s'y met à son tour. Mais attendez, je dis pas que c'est un scandale, hein, mais enfin ça y est, la moto se met aussi aux compétitions de véhicules électriques. Et là, effectivement, le signe très fort envoyé par la Fédération Internationale, bah, c'est qu'on veut accoler le plus possible cette nouvelle compétition à la discipline reine.
Exactement.
On va pas mettre ça le matin tôt avant le Moto 3 ou après le Moto GP. Bah non, on met ça au milieu. Du coup, on ampute un petit peu les trois disciplines majeures et notamment le Moto GP qui perd un voire trois tours. Donc c'est là où peut-être la pilule a un petit peu de mal à passer.
Bon, il y aura toujours du spectacle, on va rassurer
bien
tout
sûr
le monde.
Mais bon, vous voyez, l'évolution, ouais, l'évolution du sport moderne et de cette notion d'électricité. Il y avait même un grand prix de formule électrique hein, ce week-end à Santiago, victoire de Jean-Éric Vergne. Mais on a appris après que l'équipe chinoise était pénalisée $30,000 parce qu'il y avait une infraction. Donc vous voyez, c'est pas encore clair partout non plus à tous les niveaux. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et donc la moto sera électrique aussi en 2018. On va voir ça. Bon, bah écoute, je crois qu'on a tout dit hein, parce que là, on a passé en revue la Formule 1 et le MotoGP. Il y avait des choses à dire. Bah, de toute façon, c'est terminé. Voilà. Merci Benoît.
Merci LFB.